Audible Studio présente L'épée de vérité. Livre 12. La machine à présages. De Terry Goodkind. Traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet. Lu par Vincent Deboire. Chapitre 1er.
Les ténèbres. Il y a les ténèbres.
Murmura le gamin. Richard fronça les sourcils, doutant d'avoir bien entendu. Puis, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Visiblement inquiète, Callan paraissait déconcerté, tout comme lui. Le gamin reposait sur un tapis posé à même le sol devant une tente couverte de colliers de perles colorées. Ces derniers temps, le marché en plein air qui s'étendait au pied du palais était devenu une petite cité où se pressaient des centaines de pavillons, de chariots et d'étalages. Les milliers de gens venus des quatre coins du pays, et parfois de plus loin que ça pour la célébration du grand mariage la veille, s'étaient aujourd'hui rués sur le marché. Pris d'une frénésie d'achat, ils acquéraient aussi bien des souvenirs que du pain frais, de la viande rôtie, des boissons et des potions exotiques, et justement des colliers de perles colorées. Le souffle dangereusement court, le garçon gardait les yeux fermés. Se penchant un peu plus vers lui, Richard murmura « Les ténèbres ?» Le gamin acquiesça presque imperceptiblement.
« Oui, les ténèbres sont partout. »
Bien entendu, il n'en était rien. De beaux rayons de soleil matinaux venaient réchauffer les badauds qui déambulaient dans le labyrinthe de rues qui s'était naturellement créé entre les divers étals et les véhicules. Mais le gamin, Richard l'aurait parié, n'avait sûrement pas conscience de l'atmosphère festive qui l'entourait. Ses propos, apparemment dépourvus d'agressivité, avaient un sens caché. En eux, on sentait comme une noirceur qui concernait un tout autre endroit que le paisible marché. Du coin de l'œil, Richard vit des promeneurs ralentir le pas pour mieux regarder le seigneur Hall et la mère inquisitrice accroupis devant un jeune garçon malade et sa mère. Tout autour, la musique entraînante des artistes des rues peinait à couvrir le brouhaha des conversations, des éclats de rire et d'une multitude d'âpres marchandages. Pour la plupart des gens, voir en chair et en os le seigneur Hall et la mère inquisitrice était une expérience rare et inoubliable. Un moment de leur vie qu'ils raconteraient encore dans 10 ou 20 ans une fois retournés chez eux. Des gardes de la première phalange se tenaient un peu à l'écart, mais eux, ils s'intéressaient à la foule, attentifs aux moindres détails inquiétants. Et bien qu'il n'y eût aucune raison de redouter des problèmes, ils faisaient en sorte que les curieux n'approchent pas trop du couple qu'ils avaient mission de protéger. Cela dit, tout le monde était d'excellente humeur. Après les années de guerre, une période de malheur et de souffrance, la paix revenue apportait avec elle des promesses de prospérité et de bonheur. Le mariage de la veille, aux yeux de tous, marquait le début d'une nouvelle ère. Le prologue à un monde empli de merveilles que nul n'aurait jamais osé imaginer. Au milieu de tant d'allégresse, les sombres paroles du gamin paraissaient déplacées, un discours qui n'appartenait pas vraiment au monde réel. Dans sa robe blanche chatoyante, le symbole même de son statut de mère inquisitrice, Callan semblait nimbée d'une aura, comme si elle était un esprit du bien venu visiter l'humanité par cette belle matinée de début du printemps. Alors que le sourcier soulevait la tête du garçon, sa compagne tendit une gourde d'eau vers sa bouche, aux lèvres craquelées.
« Tu peux essayer de boire une gorgée ?»
Le gamin fit mine de ne pas avoir entendu, et il ne manifesta pas la moindre intention de se désaltérer.
« Je suis seul, »
souffla-t-il d'une voix brisée.
« Si seul. »
Ému par tant de détresse, Callan tapota l'épaule décharnée du gamin. « Mais non, tu n'es pas seul, » affirma Richard avec un optimisme qu'il n'était déjà plus très certain de ressentir. « Il y a plein de gens autour de toi, et ta mère est là. » Derrière ses paupières closes, les yeux de l'enfant roulèrent furieusement comme s'il cherchait quelque chose dans les ténèbres.
« Pourquoi m'ont-ils tous abandonné ?»
Callan posa une main sur la poitrine du gamin dont le souffle était de plus en plus heurté.
« Abandonné ? De quoi parles-tu ?
Pourquoi m'ont-ils laissé seul dans les ténèbres et le froid ?»«
Qui t'a abandonné ?»
demanda Richard, concentré au maximum pour capter et comprendre les paroles du garçon.
« Et où t'a-t-on abandonné ? »
J'ai fait des rêves,
dit le gamin, le ton un peu plus affirmé. Richard plissa le front, surpris par ce brusque changement de sujet. Quel genre de rêve, petit ?
Pourquoi ai-je fait ces rêves ?
Souffla le gamin, de nouveau paniqué. Une question qu'il s'adressait à lui-même et qui n'appelait pas de réponse, comprit Richard.
Nous ne comprenons pas ce que...
commença Callan, résolue à essayer d'en savoir plus, même si elle partageait l'analyse du sourcier.
Le ciel est-il toujours bleu ?
Callan échangea un bref regard avec Richard.
D'un bleu magnifique, oui, répondit-elle.
Mais le garçon ne parut pas avoir entendu. Continuer à bombarder le gamin de questions n'avait aucun sens, décida Richard. À l'évidence, il était gravement malade et il délirait. Dans ces conditions, à quoi bon tenter d'en savoir plus long ? La petite main du garçon se referma soudain sur l'avant-bras de Richard. Entendant le bruit de l'acier qui frotte contre du cuir, le sourcier leva une main sans se retourner pour ordonner aux soldats de remettre leur arme au fourreau.
« Pourquoi m'ont-ils abandonné ?»
demanda de nouveau le garçon. Richard se pencha un peu plus. Avec un peu de chance, il parviendrait à calmer l'enfant. Où t'ont-ils abandonné ? Le gamin ouvrit les yeux si brusquement que Richard et Callan en sursautèrent de surprise. Comme s'il essayait de sonder son âme, le petit malade riva son regard dans celui du sourcier. Et sa main exerça sur l'avant-bras de Richard une pression étonnamment forte pour un gamin si fragile.
« Les ténèbres sont dans le palais !»
Un frisson glacé courut le long de l'échine de Richard. Refermant les yeux, le garçon se laissa retomber sur sa paillasse improvisée. Malgré sa volonté de se montrer rassurant et doux, le sourcier parla d'un ton presque cassant.
« Que racontes-tu donc ? Dans le palais, des ténèbres ? Quelles ténèbres ?»«
Les ténèbres cherchent les ténèbres !»
murmura le gamin avant de marmonner quelques mots inintelligibles. Sourcil de plus en plus froncé, Richard tenta de trouver une logique dans ce délire verbal.
« Que veux-tu dire ? Les ténèbres cherchent les ténèbres ? C'est... »«
Il me trouvera ! Je sais qu'il me trouvera !»
Comme s'il n'avait plus la force de lever le bras, la main du garçon glissa du poignet de Richard. Celle de Callan vint la remplacer tandis que les deux époux, silencieux, attendaient que l'enfant reprenne la parole, mais il ne parut pas en avoir l'intention. Pour le seigneur Hall et la mère inquisitrice, il était temps de rentrer au palais, où des gens les attendaient sûrement. De toute façon, songea Richard, même si le garçon parlait de nouveau, ça ne risquait guère d'être plus clair. Debout près de lui, la mère se tordait nerveusement les mains.
« Quand il est comme ça, souffla-t-elle, il me fait peur. Seigneur Hall, je ne voulais pas vous déranger, et, oh, je suis vraiment désolée. »
On eût dit une femme prématurément vieillie par l'inquiétude. « Vous ne m'avez pas dérangé, parce que c'est mon devoir. Je suis venu ici pour voir les gens qui n'ont pas pu assister au mariage hier. Beaucoup d'entre vous ont parcouru de très grandes distances, je le sais. La mère inquisitrice et moi tenons à vous manifester notre gratitude. Nous sommes touchés que vous vous soyez déplacés pour fêter l'union de nos amis. Je n'aime pas avoir des gens souffrir comme vous souffrez, votre fils et vous. Nous allons dénicher un guérisseur pour qu'il vienne déterminer ce qui ne va pas. « Qui sait, une potion fera peut-être des miracles. » La femme secoua la tête.
« J'ai consulté beaucoup de guérisseurs, mais ils sont impuissants. »«
Vous en êtes sûr ?»
demanda Callan.
« Ici, certains sont très doués, vous savez. »«
Je l'ai déjà montré à une femme très puissante, loin d'ici, dans la Trace de Carga. Une pitié silence. »«
Une pitié silence ?» De quel genre de guérisseuse s'agit-il ?
Détournant le regard, la mère du gamin hésita un moment.
Eh bien, c'est une femme dotée de très grands talents. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Les petits silences ont des pouvoirs remarquables et j'ai pensé qu'elle pouvait m'aider. Mais Jit, c'est son nom, Jit, a dit qu'Enrique est spécial. Spécial, mais pas malade.
Et il a souvent des crises de ce type ?
Demanda Callan. La femme referma une main sur le devant de sa robe toute simple, torturant le tissu.
C'est rare, mais ça arrive. Il voit des choses, à travers les yeux des autres, je crois.
Callan posa la main sur le front du garçon, l'y laissa un moment, puis passa les doigts dans les cheveux du petit malade.
« Et si c'était la fièvre, tout simplement ? Il est brûlant. Des cauchemars provoqués par la fièvre, oui. »
La femme acquiesça.
« C'est vrai. Quand il voit des choses à travers les yeux des autres, il a la fièvre et des nausées et... »
La mère d'Henrik regarda Richard.
« Ce sont des prédictions, je pense. Quand il est malade comme ça, il prédit l'avenir. »
Comme Callan, Richard penchait plutôt pour un délire induit par la fièvre, mais il le garda pour lui. La pauvre femme semblait assez bouleversée comme ça. De plus, le sourcier n'avait aucune affinité pour les augures, présages et autres prophéties. En fait, il les détestait autant qu'il abominait les énigmes et les charades. Selon lui, les gens faisaient toute une affaire de babillage sans intérêt.
« Le tableau n'a pas l'air si spécial que ça, » se décida-t-il quand même à dire. « Pour moi, c'est l'effet de la fièvre. Les enfants y sont très sensibles. »
La mère d'Henrik n'en crut pas un mot, c'était visible. Mais elle ne sembla pas décidée à contredire le seigneur Rall en personne. Dans un passé somme toute récent, le maître de Dara était redouté de tous ses sujets qui avaient d'excellentes raisons de ne pas le contrarier. Comme les vieilles rancunes, les anciennes peurs avaient la peau dure.
« Il a peut-être mangé quelque chose qui ne lui a pas réussi ?»
hasarda Callan.
« Non, nous avons pris le même repas, très exactement. »
La mère d'Henrik dévisagea longuement ses interlocuteurs.
« Mais les molosses se sont de nouveau attaqués à lui. »«
Que voulez-vous dire ?» s'enquit Richard, de plus en plus perplexe. La femme sumecta les lèvres du bout de la langue.
« Des molosses, enfin plutôt... Des chiens sauvages sont venus rôder autour de notre tente hier. J'étais allé acheter une miche de pain et Henrik surveillait nos colliers de perles. Quand il a vu les chiens, il s'est caché sous la tente, mort de peur. À mon retour, j'ai vu ces sales bêtes rôder autour, tous les poils hérissés. Ces chiens reniflaient comme s'ils étaient en chasse, mais je les ai fait déguerpir avec un bâton. Et ce matin, Henrik était comme ça.
Richard voulut dire quelque chose, mais Henrik s'assit soudain, les yeux fous, et griffa férocement l'air comme s'il était un fauve acculé par des chasseurs. Le sourcier se leva d'un bond, tirant sa femme en arrière. De nouveau, les soldats dégainèrent leurs armes. Vif et rapide comme un lièvre, Henrik se leva et s'enfonça dans la foule, se faufilant entre les jambes des passants. Deux soldats le prirent immédiatement en chasse, mais il se glissa sous un chariot, ressortant très vite de l'autre côté. Trop grand pour l'imiter, les deux hommes durent faire le tour du véhicule et lui concéder ainsi 10 bonnes longueurs d'avance. Connaissant les membres de la première phalange, Richard ne crut pas un instant que ça suffirait à les semer. Henrik et ses poursuivants furent bientôt hors de vue. Baissant les yeux, Richard s'avisa que le gamin avait réussi à griffer Callan.
« Ce n'est qu'une égratignure sur le dos de ma main, »
le rassura la mère inquisitrice.
« Je vais bien, mais sa réaction m'a surprise, c'est tout. »
Richard inspecta sa propre main et vit qu'elle saignait aussi.
« Inutile de t'inquiéter pour moi non plus, » soupira-t-il.
Le capitaine de son escorte, épée au poing, vint se camper devant lui.
« Nous le trouverons, seigneur Rall. Dans les plaines d'Azrit, il n'y a guère d'endroit où se cacher. Ne vous inquiétez pas, il n'ira pas loin. »
Malgré ses propos rassurants, l'homme ne semblait pas heureux qu'on ait osé faire saigner le seigneur Rall et qu'il s'agisse d'un enfant ne l'apaisait pas le moins du monde.
« Ce sont des égratignures, comme l'a dit la mère inquisitrice. Mais, capitaine, j'aimerais que vous retrouviez ce petit. »
Tous les gardes se tapèrent du poing sur le cœur.
« Considérez que c'est chose faite, seigneur Rall, » assura l'officier.
« Parfait. Quand vous lui aurez mis la main dessus, ramenez-le à sa mère. Il y a des guérisseurs sur ce marché parmi les colporteurs et les marchands. Choisissez-en un et voyez s'il peut aider Henrik. »
Pendant que l'officier chargeait une partie de ses hommes de traquer l'enfant, Callan approcha de Richard et souffla.
« Il faudrait retourner au palais, nos invités nous attendent. »
Richard acquiesça puis se tourna vers la mère d'Henrik.
« J'espère que votre fils se rétablira très vite. »
Sur ces mots, le sourcier se dirigea vers l'imposant haut plateau sur lequel trônait le palais du peuple. Son fief, hérité en même temps que la couronne de Dara. Un pays, se souvint-il, dont il avait ignoré l'existence pendant presque toute sa vie.
et par bien des aspects, un empire dont il était le maître, mais qui continuait à être un mystère pour lui.